Je suis heureuse de vous présenter le deuxième épisode de Sur mon pick-up après un délai de 3 ans. La COVID et le télétravail ont ralenti ma capacité à trouver un coin tranquille pour enregistrer la piste de voix. Alors que je vous ai expliqué en mots et en musique l'importance de l'année 67 au Québec, entrons maintenant dans la nouvelle décennie. C'est avec beaucoup d'espoir que nous célébrons l'arrivée de 1970. Nous sommes enthousiastes et déterminés de concrètement changer la société. Les Québécois francophones prennent en main leur destinée et commencent à en avoir assez de se faire dicter comment agir par le clergé. On sort la religion des chambres à coucher pour y faire discrètement entrer la pilule contraceptive. Les cours de religion cessent d'être obligatoires et on entame un très timide virage vers le multiculturalisme. À la radio, Tex le Corps interprète Le Frigidaire, Steve Fizet, Les Chemins d'été et Robert Charlebois rock le Québec avec En deux joints. Les années 70, c'est aussi mon entrée à l'école. J'aurais grandement préféré rester avec ma mère et mes grands-parents. Surtout que l'école, pour moi, a aussi apporté son lot d'intimidation avec l'arrivée d'une nouvelle famille dans le quartier. Je m'appelle Louise Rousseau et je vous présente ma vision des années 70 avec Sur mon pick-up.
Il me restera quelque chose dans le frigidaire.
À l'arrivée du 24 juin, exit la haute couture de grand-maman. La mode est plutôt au maillot de bain. Chez nous, dès la fin des classes, on déménage au chalet pour l'été. Et quand je dis « on », c'est toute la famille au sens élargi du terme. Environ 18 quand on fait le décompte des oncles, tantes, cousins et cousines. On quitte tous la rue La Tulipe pour le chemin de la Croix à Montbéliard. À part pour quelques exceptions, il n'y aura pas de retour en ville avant la reprise des classes. D'ici là, le speedo rouge, une pièce, est mon vêtement de base. Si par malheur la température est plus fraîche, on ajoute des vêtements, mais jamais sans son maillot. Il faut quand même être prêt à sauter à l'eau à n'importe quel moment. Plusieurs enfants des années 70 ont une maman qui n'est pas sur le marché du travail, comme on dit. C'est mon cas et en vieillissant, je réalise que c'est un immense cadeau. Ma mère, que je remercie du fond du cœur, a réglé ma liberté et celle de mon frère au rythme des repas. Quand ta plus grande contrainte estivale consiste à te présenter à temps pour dîner et pour souper, ça en dit long sur la liberté de mon enfance au plus merveilleux endroit du monde, notre chalet au bord de l'eau. Que ce soit pendant l'été ou les fins de semaine d'hiver, le bonheur du chalet, c'est aussi des souvenirs olfactifs. L'odeur de la motoneige Bombardier jaune de mon père, des sciures de bois coupées à la scie à chaîne, des sandwichs au jambon grillés sur le feu de camp. Toutes ces odeurs familières réveillent mes plus heureux souvenirs. La mémoire olfactive la plus rassurante pour moi, c'est l'odeur du bacon. Je me revois encore dans mon lit. J'entends ma mère brasser les chaudrons et la radio joue en arrière-plan. Le crépitement du gras du bacon qui frémit dans la poêle me sort de mon sommeil et tout à coup...
Qui est là?
Les joyeux cadeaux!
Mais entrez, voyons!
Tu vas toute la semaine!
Le plus bel été de ma vie, Hydro-Québec est en grève et couvre uniquement les services essentiels. Les pannes électriques sont rares au chalet, mais cet été-là, on en a eu une. rebrancher les villégiateurs ne fait pas partie des priorités des employés de la société d'État. Imaginez le portrait. Une semaine sans électricité, 5 ou 6 familles qui font l'inventaire de la nourriture qu'il ne faut pas gaspiller et une enfilade de repas à 18 personnes sur le balcon. Le bonheur pur et simple. Ça parle fort, ça rit, et comme dans bien des familles québécoises, les adultes lèvent le coude, surtout les gars. Molson Laurentide, la batte 50, O'Keefe. Chacun sa sorte et en caisse de 24, s'il vous plaît. Cette semaine sans électricité demeure un de mes plus beaux souvenirs, le bonheur des regroupements en famille et des liens tissés serrés. Ma vie s'est construite dans une communauté familiale et je reproduis ce précieux bonheur avec des parents et amis dès que j'en ai l'occasion. C'est mon oxygène. Ma vie de chalet est aussi teintée de musique western parce qu'à CKRN Radio, Laurent Sirard anime le son de Nashville tous les dimanches. Quand tu es une pré-ado dans les années 70-80, c'est qu'éteint le western. C'est ce que tu penses avant de découvrir que derrière cette musique simple à 3 accords se cachent les histoires de gens ordinaires qui livrent leurs états d'âme avec peu de mots mais une grande sensibilité. Le dimanche, à la radio, les gens ordinaires écoutent les succès de Nashville mais se reconnaissent dans le western québécois de Willie Lamothe, Mary King et Lévi Boulian.
Un coin du ciel où l'on vivra tous deux, ma chérie. Un coin du ciel où l'on s'aimera toute la vie. Mon cœur t'appelle et te blâme jour et nuit. Sois-moi fidèle, je t'aimerai toujours, ma jolie.
Notre chalet. Aucun lieu dans le monde est aussi connecté à mon bonheur que ce grand bâtiment divisé en 3, comme un motel. Le paysage qui lui fait face est comme une grande scène où la nature se donne en spectacle. Elle nous livre ses états d'âme. Il n'y a pas de meilleur siège pour regarder un ciel orageux qui se fait scier en deux par un éclair vif. Comme tout bon Québécois, les gens de ma famille aiment jaser de température. Après quelques étés particulièrement pluvieux, mon père et mes oncles soupçonnent le gouvernement de faire usage des fameuses machines à pluie. Théorie du complot ou vérité dévoilée? Bien que le gouvernement a longtemps nié l'existence des machines à pluie artificielles, c'est en 1970 qu'une loi qui en permet une utilisation sous certaines conditions est adoptée. Il existe donc des machines qui permettent d'ensemencer les nuages afin de provoquer la pluie. Nous autres, de la pluie et du vent, on en veut le moins possible, ou à tout le moins, le plus tard possible dans la journée. On se lève tôt quand on entend mon père dire « Le lac est calme ». Vite, on enfile le costume de bain et on prépare l'équipement pour une matinée de ski nautique. Mon frère a 4 ans et moi 7 à nos débuts en ski nautique. Comme le ski est un sport qui se pratique sans vent, il faut se lever tôt et respecter la quiétude du voisinage. Mon père est notre instructeur et l'inventeur d'un petit quai flottant propulsé par un moteur et de pédales pivotantes pour conduire avec les pieds. C'est l'équipement qu'il faut pour transporter les skis jusqu'au milieu de la baie. C'est aussi une plateforme de lancement. Une belle surface pour s'asseoir et démarrer en ski sans réveiller tout le monde. Là aussi, tout se fait en groupe. Mes cousins, les plus jeunes aux plus vieux, ainsi que leurs amis, les deux frères mascottes qui arrivent à pied de leur chalet familial. Ils marchent rapidement, pas de souliers, et transportent un galon d'essence, la contribution aux prochaines heures de plaisir. Quand l'été se termine, on est déçu, c'est certain. C'est le retour à la maison en vue de la rentrée. Une nouvelle famille arrive dans le quartier, les Gilbert. Les deux sœurs sont de véritables intimidatrices. Depuis l'arrivée de cette famille, chaque retour à la maison est fait de bousculades à deux contre moi. L'objectif, me faire tomber par terre et me tirer par les cheveux. Un été, le frère des sœurs Gilbert s'est noyé en glissant sous un quai. Un accident terrible. Je suis allée au salon funéraire avec ma grand-mère. Je me souviens d'être complètement dévastée en voyant ce petit cercueil dans la pièce. À leur retour à l'école, les sœurs Gilbert recommencent l'intimidation et poussent leur insolence à m'accuser d'avoir ri du décès de leur frère. Les intimidatrices ressentent le besoin de blesser pour oublier leurs propres blessures. Plusieurs années plus tard, lors de mes études au secondaire, mon professeur de musique me demande de me rendre dans un certain local pour donner un petit cours d'initiation à une nouvelle élève. J'ouvre la porte et c'est une des sœurs Gilbert qui se trouve de l'autre côté. J'ai enfin eu la chance de me délivrer de ce boulet au pied qu'est l'intimidation. Elle s'est excusée, mais je lui ai tout de même dit qu'elle devra elle-même apprendre les rudiments de la clarinette, car je n'ai aucune envie de l'aider ou de passer du temps en sa compagnie. Les blessures de l'intimidation sont grandes. Elles laissent des traces qui nous suivent toute notre vie. Dans cette période où je suis passée d'enfant à préado, je grandis en protégeant mon frère et sans tolérance pour l'injustice. C'est tout de même la période la plus heureuse de ma vie. Après l'école, il y a la musique. Alors que mon père écoute Elvis Presley et The Platters, ma mère craque pour la musique francophone de Chantal Paris, Nicole Martin et Ginette Renaud.
They ask me how I knew my true love was true. Oh, I must reply something here inside cannot be denied.
Au niveau politique, la décennie 70 est ponctuée d'événements majeurs et la liste d'accomplissements du gouvernement Bourassa est impressionnante. La loi sur l'assurance maladie du Québec, le développement de la baie James, la loi abaissant la majorité de 21 à 18 ans, la création du Conseil du statut de la femme, l'adoption de la loi 22 faisant du français la langue officielle du Québec et plus encore. Octobre 70, la funeste crise d'octobre. La province tente de se remettre de la grande crise économique de la fin des années 60 et les francophones n'en peuvent plus d'être nés pour un petit pain. Le mécontentement populaire est palpable et tout s'apprête à éclater. Quelques Québécois se radicalisent et protestent contre certaines situations qu'ils jugent injustes. Les Québécois francophones se révoltent contre un clergé contrôlant. Ils en ont assez également de la minorité anglophone qui conserve le monopole économique et contrôle le monde des affaires québécois. Des francophones se rassemblent et forment le Fonds de libération du Québec. Ça joue dur. Le FLQ ne dérange pas. Il utilise des bombes et de la dynamite pour faire exploser des bâtiments fédéraux et détruire des boîtes aux lettres, surtout dans Westmount. Le diplomate britannique James Richard Cross est enlevé et libéré après 59 jours. Le député Pierre Laporte est également enlevé et retrouvé mort 7 jours plus tard dans le coffre d'une voiture.
Une chanson par ici, on a besoin ces temps-ci, une chanson à retenir. Va falloir qu'elle soit bonne si on veut passer l'automne sans que rien manque à personne. Une chanson de parti qui fait plus partie d'ici. Une chanson pour repartir loin du grand musée de cire. Excuse-moi. Je chercherai pour autant
J'étais bien jeune quand nos chefs d'État prirent la décision d'avoir recours à la loi des mesures de guerre. En rétrospective, je me demande si les choix de nos dirigeants étaient nécessaires et justifiés. Les actions du FLQ ont été lourdes de conséquences. Il y a eu mort d'homme. Mais au-delà des gestes condamnables, c'est la voix du peuple francophone du Québec qui se lève. Dans les années 70, le poids démographique des moins de 30 ans atteint des sommets. C'est le début d'une ère nouvelle, une transformation complète instiguée par de jeunes adultes. Démographiquement, la moitié de la population du Québec a moins de 30 ans et souhaite une société confiante en ses capacités. Ils vont la façonner. Écoutons le poème de Gaston Miron qui parle de son compagnon du FLQ, Jean Corbeau, tué par la bombe qu'il a lui-même installée.
Mort de l'avenir. Qui donc démêlera la mort de l'avenir? Qui donc démêlera la mort de l'avenir?
Malgré les accomplissements monumentaux du gouvernement Bourassa pendant ses 6 années à la tête du Québec, la province choisit une nouvelle option et les péquistes de René Lévesque défont les libéraux sur la promesse de tenir un référendum sur la souveraineté association. Le PQ remporte l'élection en 1976. Le 16 août 1977, les médias de la planète annoncent le décès du King Elvis Presley. Je me souviens encore que j'étais sur le balcon du chalet quand la nouvelle fut annoncée à la radio. Tout un choc. Les années 70 se terminent avec un gouvernement péquiste qui prépare son entrée dans une nouvelle décennie avec un projet de société pour le Québec. Les Québécois discutent de la séparation. On ne se gêne pas pour accrocher au balcon des pancartes du oui ou du non. Pendant que le Québec parle de séparation, beaucoup de couples sont tentés par une nouvelle tendance très mal vue par le clergé, l'union libre. Les plus vieux en parlent à voix basse. Ça fait scandale. Imagine-toi donc que le fils de Pierrette et sa petite blonde se sont à côté. Ses parents doivent être découragés. Puis, le 20 mai 1980, le non l'emporte avec 59,56%. Et c'est un René Lévesque aussi déçu que ses partisans qui s'avance sur l'estrade et dit « Si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire à la prochaine fois ». On en a vécu des choses au Québec dans les années 70. Après s'être libéré de la rigidité de la religion catholique, légalement confirmé le français comme langue officielle de la province et débuté les grands travaux de construction de la baie James, nous sommes fin prêts pour se tourner vers un avenir prometteur. Notre entrée dans les années 80 aura pourtant un effet de lendemain de veille pour ceux qui espéraient faire du Québec un pays. C'est déjà la fin de cet épisode et, comme je l'ai fait la dernière fois, je laisse la musique avoir le mot de la fin.
Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait vu jolie rose. Elle était ma vie, mon soleil.